C'est drôle, je pensais à ça tantôt, puis on parlait de fête d'Élie, là, mais tu sais, quand on dit que le temps passe vite, là, vous souvenez que vous êtes la première assemblée à avoir prié pour moi à l'époque, mais demain, je vais avoir 20 ans dans le Seigneur. Donc, j'y pensais tantôt, donc 23 mars 2006, je suis venu au Seigneur, donc demain, ça va faire 20 ans, donc le temps passe vite pareil. Donc, il y a 20 ans, j'étais à Coudjouac avec notre frère André. Donc, voilà. Et sinon, on commence, on poursuit, puis je pense qu'on a une belle suite logique. Là, Guillaume était là dernièrement, que Nelson me disait, puis c'était la fin du chapitre 2, je pense qu'il faisait. Donc là, cette semaine, on commence le chapitre 3. Donc, une belle suite logique. Donc, je vous invite à tourner à Colossiens 3. Puis pendant que vous tournez, avant que je lise le passage, le titre que je mets ce matin au passage, c'est « Chercher les choses d'en haut ». Donc, « Chercher les choses d'en haut ». Donc, on est pas mal tous rendus. Colossiens 3, verset 1, jusqu'à 8, en fait, aujourd'hui, que je vais regarder. Donc, je vais lire. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Donc voilà le beau texte qu'on a devant nous ce matin. Puis comme Paul fait souvent dans ses lettres, souvent, il commence ses lettres ou ses épîtres avec des parties plus théoriques, doctrinaires, puis il finit souvent avec des aspects plus théoriques, plus pratiques. Donc, c'est le cas qu'on a ce matin. Donc, comme vous avez vu dans Éphésiens, c'est la même chose, un peu plus théorique au début. Il va y aller avec l'armure du chrétien, quelque chose de très visuel, très pratique aussi. Donc, c'est un peu la même chose qu'il fait ici. Donc, on commence la partie vraiment plus mise en pratique là, de sa lettre. Puis déjà, en partant, nous autres, c'est un rappel pour nous important. C'est que ce qu'on apprend de la parole de Dieu, il ne faut pas que ce soit juste de la connaissance qui s'accumule. Il faut mettre en pratique aussi. Puis à ce moment-là, ça devient même un témoignage pour les autres. Il faut qu'on soit transformé par la parole de Dieu. Il ne faut pas que ce soit une accumulation de connaissances. Puis c'est entre autres ce que signifie, quand on parle de chercher les choses d'en haut, bien, c'est un peu ça. Chercher les choses d'en haut, s'attacher aux choses d'en haut, s'affectionner dans certaines versions, les choses d'en haut, bien, c'est de piger dans notre trésor qui est le Seigneur Jésus, pour la parole de Dieu, pour mettre en pratique dès maintenant sur la terre. Puis quand je parle de piger dans le trésor, je fais référence au chapitre 2, un peu avant ce que Guillaume avait mentionné, là, au verset 2 du chapitre 2, au milieu à peu près. Là. Donc, chapitre 2, verset 2b, disons. « Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc, Paul était en train d'expliquer à ce moment-là qu'il n'y en a pas de mystère. Tu sais, les gnostiques, ils espéraient avoir une connaissance supérieure, etc., accéder à Dieu, mais non, il n'y a rien à chercher de plus qu'en Christ, on a tout en lui. Donc, c'est notre trésor. Donc, toute la connaissance, intelligence, sagesse qu'on voudrait aller chercher, c'est en lui qu'on l'a. Donc, c'est en lui qu'il faut piger. Donc, chercher les choses d'en haut, c'est une façon de dire chercher les choses en Christ, finalement, ou la parole de Dieu. Donc, ça revient à dire cela aussi, là. Puis ça veut aussi dire, chercher des choses d'en haut, d'avoir déjà sur la terre cette perspective-là, ce regard vers le ciel, voir un peu, s'imaginer qu'on va être là bientôt et voir comment Dieu voit le monde aussi. Cette perspective-là, on doit déjà l'avoir dès maintenant sur la terre. On vit, on est citoyen du ciel, même si on n'est pas encore là-bas. Un peu comme Paul s'adresse à des Colossiens. Les Colossiens, c'est des citoyens de Rome, même s'ils n'habitent pas à Rome. Font partie de l'Empire romain, mais c'est des citoyens romains et des Colossiens, mais ils n'habitent pas là. Nous, c'est la même chose. On est citoyens du ciel, mais on n'y est pas encore. On va y être bientôt, on n'y est pas encore, on est citoyens du ciel, mais déjà, cette perspective-là, ça doit affecter notre façon de vivre, puis vivre différemment, pour que ça devienne déjà un témoignage pour les autres. Puis un dernier petit mot pour faire une transition à ce que Guillaume m'a dit la semaine passée, à la fin du chapitre 2, il a parlé probablement de trois mots qui finissent en isme, là, ascétisme, mysticisme et légalisme. Guillaume, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est une façon de voir, on s'en est rappelé aussi dans l'adoration, on a tout avec le Seigneur, on n'a rien à ajouter, que ce soit des œuvres, comme François faisait allusion dans le temps des grosses familles et tout ça. Légaliste, c'était des choses, les pharisiens qu'on voit souvent dans la Bible, mais ou n'importe quelle forme d'œuvre ou de discipline ou de comportement alimentaire qu'on pourrait vouloir ajouter, c'est inutile, ça. Oui, d'avoir la discipline, des fois, dans la vie, c'est bien, mais ça ajoute rien au salut qu'on a. On a tout ce qu'il faut avec le Seigneur, donc, cherchons les choses d'en haut, cherchons les choses en lui, cherchons pas ailleurs, dans les religions, dans qu'est-ce que je pourrais faire de plus, ou pour être plus pieux, etc. Non, on a tout avec le Seigneur. Donc, cherchons les choses d'en haut. C'est notre trésor, c'est lui, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. On a tout en lui, on n'a rien à ajouter. Donc, voilà, chercher les choses d'en haut. Puis, pour continuer, je vais avoir deux parties très pratiques. Chercher les choses d'en haut, pourquoi, comment. Donc, ça va être deux façons de diviser le passage en deux, en fait. Donc, pourquoi chercher les choses d'en haut et comment chercher les choses d'en haut. Donc, pour la première partie, je vais relire les quatre premiers versets. Donc, je relis, qu'on les ait bien en tête. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » D'abord, première petite chose, ça commence avec un « si ». Mais tu sais, en français, le « si », des fois, ça ne veut pas nécessairement dire une condition. On pourrait le traduire facilement par « puisque ».« Puisque ». La même chose quand Satan a tenté le Seigneur Jésus dans le désert, il a dit « si tu es fils », Satan n'avait aucun doute que Jésus était le fils de Dieu. Mais c'est « puisque tu es fils ». Donc, la même chose, un croyant, on n'a aucun doute qu'on est ressuscité avec Christ. C'est une certitude. Donc, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut. C'est un fait accompli dans la nouvelle naissance. On est mort avec lui, on a été enseveli avec lui, mais on a été ressuscité avec lui. C'est une certitude, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Donc, puisque nous sommes ressuscités avec lui. Puis une autre chose qu'on a fait allusion tantôt, le fait d'être assis à la droite de Dieu. On voit, Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu. Déjà là, on a deux autres éléments pourquoi on doit mettre notre confiance en lui. Le fait qu'il c'est la position, c'est un rang d'honneur. Il est à la droite de Dieu, donc c'est la position la plus élevée, le rang le plus élevé qu'on pourrait avoir. Donc, c'est lui, notre Seigneur, le rang le plus élevé. Puis le fait qu'il soit assis, bien, c'est que l'œuvre est accomplie. Tout est accompli. Quelqu'un l'a cité tantôt, je pense que c'est Nelson, tout est accompli. Une façon de voir le fait qu'il soit assis, c'est l'œuvre est accomplie. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Donc, c'est notre Seigneur, cette position-là qu'on a en lui. Notre Seigneur et Sauveur est assis à la droite de Dieu, bien, déjà là aussi, c'est un autre élément à lequel on peut lui faire entièrement confiance, puis chercher en lui tout ce qu'on a besoin pour nos vies. Puis après ça, on tombe dans le « vous êtes mort, vous êtes vivant », à peu près dans la même phrase. On va regarder ça un peu aussi. Donc, au début, on voit « car vous êtes mort ». Bon, puis la façon, des fois la Bible, elle se définit elle-même, mais ailleurs, on va aller voir quelques versets dans l'Épître aux Romains. Pour définir qu'est-ce que Paul veut dire ici, vous êtes mort et vous êtes vivant. Des fois, on voit les deux dans la même phrase, on est mort, on est vivant. Les deux sont vrais, en réalité. Donc, dans Romains 6, je lis à partir du verset 8, puis je lis ces versets-là parce que je pense que c'est ce qui explique le mieux. Fait que je pourrais, tu sais, la parole, c'est ce qui sauve, c'est ce qui fortifie, c'est ce qui transforme. Donc, elle se définit elle-même aussi bien y aller que d'avoir des explications plus humaines, là. Donc, Romains 6, à partir du verset 8. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Verset 11, notamment. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Que le péché ne règne donc point dans vos membres, dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Paul avait écrit ça aux Romains à peu près une dizaine d'années avant, mais c'est exactement la même idée qu'il y a ici, quand il définit « vous êtes mort ». Donc, le fait qu'on soit mort en Christ indique que le monde et le péché ont plus de pouvoir sur nous. Est-ce que ça nous influence encore? Malheureusement, oui. On est entouré de pécheurs dans un monde péché, on est pécheurs nous-mêmes, donc ça nous influence encore, mais ça n'a plus de pouvoir sur nous. Donc ça, c'est une distinction très importante. On est mort pour le monde, puis notre vie est maintenant en Christ. Puis on a après ça l'expression « votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Mais ça veut dire essentiellement deux choses, selon moi. C'est que, puis on a fait ça aussi, allusion tantôt, c'est qu'on partage une vie. Tu sais, quand on disait, je pense que c'est François tantôt qui disait que pour les autres, ça fait probablement pas de sens. Notre vie, notre relation avec le Seigneur, notre union avec le Seigneur, pour bien des gens, ça fait pas de sens. Bien, c'est une façon de voir que c'est caché pour eux. Un peu comme les paraboles. Le Seigneur, il va dire, les paraboles, ceux à qui elles s'adressent vont les comprendre. Tu sais, ceux qui ont des oreilles pour entendre, etc. Mais que quelqu'un qui ne comprend rien des paraboles, bien, c'est pas le temps pour lui. Mais quand il va les comprendre, le Saint-Esprit va l'éclairer et va les comprendre. Donc, c'est une façon de voir l'aspect qu'on est caché en lui, puis tout ça, ça n'avait pas de sens. Il y avait des faux docteurs à Colosse. Fait que cette relation-là, cette union-là qu'on a avec Christ, ça faisait probablement pas de sens pour eux autres non plus, donc ils voulaient rajouter d'autres choses. Ils n'ont pas accès à Dieu, selon eux, directement. C'est trop simple. Il faut rajouter des choses. Mais non, c'est pas le cas. On a tout ce qu'il faut avec le Seigneur. Donc, c'est une façon de voir que notre vie est cachée en lui. Puis une autre façon de le voir, ce serait une espèce de sécurité ou de protection qu'on a dans le Seigneur. On est caché en lui. C'est comme si, puis une belle image qu'on pourrait avoir, c'est un, puis il dit lui-même, comme une poule qui rassemble ses poussins. C'est comme si on était caché sous les ailes du Seigneur. On est caché en lui, donc c'est une protection. Les ennemis ne peuvent pas nous atteindre parce qu'on est caché en lui. Puis je lis un verset, peut-être pas nécessaire d'y tourner, un verset qu'on connaît bien dans Jean. Jean 10, 28, qui nous dit, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mais c'est la même idée. Si on appartient au Seigneur, il n'en échappera pas. Il n'en échappera aucun en chemin. On lui appartient comme une poule qui rassemble ses poussins et sous ses ailes. On est caché en lui, protégé des ennemis. Donc, une façon de voir que les ennemis ne nous voient pas finalement parce qu'on est caché en Christ. Donc, ce serait la façon de voir votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais comme je disais, c'est quand même dans la même phrase. Là, on est mort, on est vivant dans la même phrase. Puis on voit aussi notre état et notre position là-dedans. L'état, c'est parce qu'on est mort au péché, donc on doit faire mourir nos membres terrestres, je vais y revenir. Mais notre position, c'est qu'on est vivant en Christ, on est ressuscité par la foi. Donc effectivement, ces deux vérités, on est mort au péché, mais on est vivant avec Christ. Donc voilà, puis parce qu'on a cette vie-là, cette position-là, bien, on devrait dès maintenant sur la terre vivre en cherchant les choses d'en haut, parce que c'est là, et notre vraie vie, elle est au ciel, notre trésor est au ciel, notre vie, c'est le Seigneur, donc on devrait déjà, dès à présent, vivre en conséquence. Puis je relis le verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est un fantastique verset, ça. Quand on pense à ça, tout le reste peut devenir moins dramatique, dans le sens que, tu sais, on a toutes des épreuves, des personnes qui nous environnent, des tristesses, des épreuves, des maladies, des gens qui souffrent autour de nous, nous-mêmes peut-être, mais quand on pense que bientôt on va paraître avec lui dans la gloire, ça relativise, ça change quand même la perspective, fait qu'il faut avoir ça en tête, on va paraître bientôt, peut-être aujourd'hui, il va venir nous chercher, puis on va paraître avec lui dans la gloire, donc c'est une formidable vérité, puis c'est une façon de voir aussi notre vie, pour l'instant, elle est cachée au monde, mais bientôt, elle va être entièrement révélée, on va paraître avec lui dans la gloire. C'est fantastique. Ça va avoir l'air de quoi, je ne sais pas, mais c'est bientôt. Ça va être merveilleux. Donc, ça aussi, c'est un encouragement à poursuivre, finalement, notre marche avec lui, puis à chercher en lui tout ce qu'on a besoin. On a tout ce qu'il faut avec lui pour le salut, mais pour lutter contre le péché, pour avoir une vie paisible, ça ne sera pas toujours facile, mais on a tout ce qu'il faut avec lui pour continuer notre marche. Donc, si je résume, le pourquoi chercher les choses d'en haut, il y a quelques points, il y en aurait bien d'autres que ça ailleurs dans la Bible, là, mais si on me concentre juste sur ce qui est écrit ici, de ce que Paul nous mentionne, pourquoi chercher les choses d'en haut, s'attacher aux choses d'en haut? La première, parce qu'on est ressuscité avec Christ et que notre vie est en lui. Ça, c'est la première raison. Notre vie est en lui, donc cherchons en lui ce qu'on a besoin pour nos vies. Une autre raison, pourquoi chercher les choses d'en haut? Parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Il a tout accompli, il n'a rien ajouté, comme on a mentionné dans l'adoration aussi. Si on a notre foi en lui, on a tout ce qu'il faut pour le salut, puis pour lutter contre le péché. Donc, cherchons pas ailleurs ce qu'on a besoin pour nos vies. Simple à dire, pas seulement toujours facile à faire, mais c'est quand même la réalité. Notre raison, pourquoi les choses, pourquoi chercher les choses d'en haut? Parce que bientôt, le Seigneur va venir nous chercher. On va être avec lui, puis on va paraître avec lui dans sa gloire, peut-être aujourd'hui, comme je disais. Fait que déjà là, ça doit changer notre perspective terrestre, parce qu'on est citoyen du ciel, comme je disais. Ça paraît pas encore tout le temps dans nos agissements, puis tout ça, malheureusement, mais on est quand même citoyen du ciel, donc puis on va avoir un nouveau corps bientôt. Là, j'y viens, il y a des péchés vraiment ciblés pour lesquels il faut lutter, il faut renoncer, et bientôt, on va avoir un nouveau corps, fait que ça va être complètement différent. Même nos interactions sociales vont être différentes, parce que moi, je ne ferais plus de péchés, je ne penserais même plus à faire des péchés, puis j'en dirais pas, mais c'est pareil pour tout le monde. On va avoir un nouveau corps, ça, c'est bientôt. Mais en attendant, bien, cherchons les choses d'en haut. Donc ça, c'est la partie « pourquoi ». Pourquoi il faut chercher les choses d'en haut. Donc maintenant, comment? Comment on fait ça? Comment on cherche, on s'attache aux choses d'en haut? Facile à dire, là, mais c'est en renonçant au péché dans lequel on marchait autrefois. Donc, on renonce au péché dans lequel on marchait autrefois. Facile à dire, comme je disais. Toujours évident, absolument pas. Mais c'est quand même la recommandation, l'exhortation de Paul qui nous fait ici. Puis la première chose, au verset 5, nous dit, c'est l'idée de faire mourir ce qui, dans nos membres, est terrestre. On l'a lu aussi dans Romains, là, c'est l'idée, c'est une hyperbole, là, c'est un sens figuré, là, comme quand le Seigneur dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est pas littéral, on se comprend, là, il ne faut pas utiliser nos membres ou nos sens pour commettre des péchés. Ce ne serait pas une bonne utilisation de ce que le Seigneur nous a donné. On le fait malheureusement, mais c'est ça, on devrait faire mourir, vu qu'on est mort au péché, on devrait faire mourir. Il ne faudrait pas que nos membres servent au péché, nos membres ou nos sens. Comme je disais, est-ce que c'est toujours évident à chaque jour? Non, parce qu'on a encore cette vieille nature, ce vieil habit-là qui combat en nous, mais c'est ce qu'on doit faire. Puis là, on voit que Paul va énoncer deux petites listes de péchés, là, qu'on voit souvent ailleurs aussi. Fait que je vais en glisser un mot sur chacun, là, grosso modo. La première partie, c'est surtout relié à de la convoitise, puis surtout des péchés qu'on va dire de nature sexuelle. On va les voir. Là, le premier, entre autres, c'est, moi, dans la version que j'ai, c'est débauche. Débauche, je pense que c'est plus clair pour tout le monde, mais dans d'autres versions, dont la version, je pense, 1910, que je lis souvent chez nous, c'est impudicité, le mot qui est là. Un mot que moi j'emploie quotidiennement, là, impudicité, débauche, ça fait plus de sens, ou immoralité, qu'on pourrait trouver aussi là, comme mot, mais en grec, c'est très clair, c'est porneia. Je ne parle pas le grec, je ne lis pas le grec, mais porneia, on peut faire la traduction pour nous en français. Donc, c'est premier. En fait, puis dans l'Empire romain, on se doute bien qu'il y avait des mœurs un peu légères, là, surtout à Rome, là, on comprend, mais probablement qu'encore aujourd'hui, c'est un péché que l'ennemi utilise considérablement. En fait, c'est un péché qui a fait tomber des familles, des êtres humains depuis le début, là, en fait, là. Non, depuis la chute. Donc, c'est très important. Donc, c'était important à l'époque, mais aujourd'hui, encore une fois. C'est sûr que l'ennemi, le monde, c'est un péché dans lequel on tombe facilement. Puis, en fait, la sexualité, c'est un homme, une femme mariée. En réalité, en dehors de ça, c'est du péché. Mais bon, on est dans un monde où il y a énormément d'influences autres que ça, ce que je viens de dire là. Donc, c'est un péché. Satan l'utilise ça de façon très efficace, malheureusement. Mais tout ça, c'était confirmé aussi, l'aspect débauche. Puis on le voit très souvent dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ça ou une version, là, impudicité ou d'autres choses. Là. C'est très, très fréquent dans la Bible. Puis là, pas nécessaire d'y tourner, mais juste dans le livre des Actes, il y a eu le Concile de Jérusalem. Là. Le Concile de Jérusalem, c'est surtout que les Juifs pensaient, en tout cas espéraient que les païens, les non-Juifs, deviennent un peu comme Juifs, se faire circoncire avant d'être chrétiens. Fait que ça, c'était la raison d'être du Concile de Jérusalem. Mais la conclusion du Concile, qu'on lit à au moins deux reprises, je lis dans Actes 15, le verset 19 et 20. Donc, c'est la fin du Concile. Je pense que c'est Jacques qui dit ça. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » Donc, cet aspect-là de débauche est fondamental. C'est un péché important qu'il faut tasser. C'était le cas au Concile de Jérusalem, mais c'est souvent Paul va revenir avec ce, quand il fait des listes de péchés. Ce péché-là revient très souvent. Ensuite, l'autre qu'il va mentionner, c'est impureté. Puis l'impureté, c'est important, mais le débauche, c'est surtout une action. Impureté, c'est surtout ce que ça montre qu'il y a dans le cœur. Puis si dans notre cœur, il y a beaucoup d'impureté, bien, ça va se traduire en débauche. On comprend le lien. C'est souvent c'est ce qu'il y a dans le cœur. Je vais revenir aussi. C'est ce qui est dans le cœur le plus important, dans le sens, c'est ce qui va refléter notre extérieur vient de ce qui se passe en dedans. Ensuite, je vais les regrouper ensemble. Il y a passion et mauvais désir. En fait, ce n'est pas toutes les passions qui sont mauvaises. On comprend ici que c'est une passion incontrôlée, qui n'est pas maîtrisée, là, ici, qu'on a. Puis ça aussi, ça indique ce qui se passe en dedans. Puis, si on les entretient dans nos pensées, ces faux désirs-là, ces passions-là incontrôlées-là, bien forcément, ça va entraîner des mauvaises actions. Donc, encore une fois, l'important, c'est ce qui se passe en dedans. Puis, l'autre terme qu'il va utiliser, c'est cupidité. Cupidité, ça non plus, c'est pas dans mon vocabulaire quotidien. On pourrait dire convoitise. Convoitise, je pense que c'est un mot qui fait plus de sens pour la plupart, en tout cas pour moi. Puis, convoitise, on sait ce que c'est. C'est le désir d'en vouloir toujours plus, d'être jamais rassasié, d'être prêt à tout pour arriver à nos fins, c'est reluquer ce qui appartient à d'autres. C'est ça, de la convoitise. Puis cette convoitise-là, c'est à la base d'un paquet de péchés. Là. Puis un bon antidote, si je peux dire, contre la convoitise, c'est le contentement. Puis la reconnaissance. Si on est content de ce qu'on a, on va convoiter moins. C'est un péché qu'on a dans le cœur à peu près tout le monde. Là. Mais si on est content de ce qu'on a, bien, il y aura moins de convoitise. Puis s'il y a moins de convoitise, il y a un paquet de péchés de lesquels on va avoir un peu moins de difficultés à lutter. Puis le dernier mot de la première liste, c'est l'aspect idolâtrie. Mais en fait, dès qu'on commet un péché, en réalité, c'est un peu comme si on devenait notre propre Dieu, entre guillemets. On préfère répondre à nos besoins plutôt que d'obéir à Dieu. Ça, grosso modo, ça serait ma définition d'idolâtrie. Puis un paquet de choses là, qu'on pourrait considérer qui pourraient être une forme d'idolâtrie. On a évidemment, il y en a faisait référence, Paul, avec la débauche, donc péché sexuel, mais on pourrait penser à l'argent, l'alcool, les drogues, le prestige, le pouvoir, les écrans. En fait, l'utilisation de notre temps de façon générale, la plupart de ce que j'ai mentionné là n'est pas nécessairement mauvais pris à petite dose. Là. Un peu d'écran, je pense que personne ne va mourir avec ça, là, mais ça dépend de ce qu'on regarde. Mais si ça prend la place du Seigneur dans nos vies, ça devient l'idolâtrie. Donc, c'est des genres de choses qu'il faut faire attention. Prendre un peu d'alcool, c'est pas mauvais en soi, mais quelqu'un qui mettrait trop de choses là-dedans, ou, etc. Donc, c'est l'utilisation de notre temps. S'il est utilisé pour nous satisfaire, nous, commettre des péchés ou s'éloigner, entre guillemets, de Dieu, bien, c'est une forme d'idolâtrie. J'avais noté une phrase ici là, d'un commentateur. « Quand les gens pêchent, c'est essentiellement parce qu'ils font ce qu'ils désirent plutôt que ce que Dieu désire. » Ce qui revient à dire qu'au fond, ils s'adorent eux-mêmes au lieu de Dieu, et c'est de l'idolâtrie. Puis je lis ce que Paul avait écrit dans l'Épître aux Éphésiens, dans à peu près les mêmes périodes. Vous vous souvenez, c'est les épîtres de la captivité là, que je mentionnais la dernière fois. Donc, Éphésiens 5:5 dit à peu près la même chose. Ça revient souvent, ça, dans les exhortations. Éphésiens 5:5, on a à peu près tout dans le même verset que de le passage ici, là, quand il dit « Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, ou convoitise, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Donc, c'est les mêmes mots, c'est des péchés extrêmement importants, dont la convoitise, entre autres, qui est la source d'un paquet de péchés. Puis la deuxième liste, donc la première liste, c'est surtout des choses qui dépendent, qui découlent de la convoitise. La deuxième, c'est plus des péchés qui se commettent contre d'autres personnes, si je peux dire. Puis d'ailleurs, il va utiliser, Paul, l'expression « renoncer ». Puis renoncer, ça signifie, dans le contexte, là, si on prenait le mot grec, là, c'est l'idée de changer de vêtements, changer les vieux habits pour en mettre des nouveaux. Je ne sais pas si Jean-Paul a parlé de ça la dernière fois ou ce sera le prochain message, là, mais c'était la suite du chapitre 3, ça serait ça. Là. L'idée de renoncer, c'est changer les vieux vêtements. C'est la vieille nature qu'on avait pour mettre des nouveaux vêtements. C'est ce que signifie ici son image, un peu l'expression « renoncer ». Puis il y a un lien, dans la liste des péchés qui sont là, il y a un lien entre chacun. D'abord, les deux premiers péchés, c'est colère et animosité qui sont mentionnés. Ça, c'est des motifs de cœur. Donc, c'est ce qui se passe en dedans. Puis si on entretient la colère et l'animosité, bien, ça va résulter en mauvaises actions, comme la méchanceté, la calomnie ou des mauvaises paroles. Donc, il y a un lien dans ce qui est indiqué ici. Un petit mot sur chacun. D'abord, c'est quoi la colère? On a tous déjà eu de la colère. sentiment d'amertume, de violence, de haine, de ressentiment qu'on a dans le cœur contre quelqu'un. Donc, si on a tous déjà vécu la colère ou subi la colère de quelqu'un, on sait ce que c'est malheureusement. Je lis un verset dans Jacques, pas nécessaire d'y tourner, en fait c'est deux versets, Jacques 1, 19-20. Jacques nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc la colère, c'est un péché qu'on, malheureusement, on a en nous. Là. Je fais une petite parenthèse aussi, parce qu'au verset 6, on voit que Dieu est en colère. Est-ce que Dieu commet des péchés? Non, Dieu ne commet pas de péché. Il est sans péché, mais c'est une forme de jugement. Quand Dieu juge le péché, on appelle ça une sainte colère. C'est possible, comme être humain, d'avoir des saintes colères. Ligne et mince, souvent, c'est parce que ça peut devenir péché facilement. On ne maîtrise pas ça, puis on est pécheurs nous-mêmes. Mais c'est un peu comme le Seigneur, quand il arrive au temple, puis il va renverser la table des changeurs de monnaie, puis etc. C'est une sainte colère. Lui est sans péché, puis il se trouve à exercer un jugement contre le péché. Donc, c'est une sainte colère. C'est une précision que je voulais faire, parce que quelqu'un pourrait dire, « Ouais, Dieu, c'est un péché. » Non, non, absolument pas. C'est une sainte colère. Donc, il exerce un jugement. Sauf que ça nous dit aussi que là, on n'est plus sous la colère de Dieu. On n'est plus sous son jugement si on est né de nouveau. Sauf que ça nous dit aussi que le péché, c'est grave pour Dieu. Donc, il faut faire attention au péché. Là. Donc, on n'est plus sous sa colère, on n'est plus sous le jugement, on a été pardonné parce que le Seigneur est allé à la croix pour payer pour moi, pour nous. Mais le péché, c'est grave quand même. Donc, c'est une autre façon de voir que c'est dangereux de commettre, bien dangereux. De vivre dans le péché, c'est Dieu n'aime pas ça, si je résume finalement. L'autre mot qu'on a, c'est animosité. Ça ressemble à de la colère, mais c'est plus un excès de colère soudain. Un excès de colère soudain, quelque chose de plus explosif. Puis on a une expression québécoise qui veut dire exactement ce qu'il y a ici. Là, je ne sais pas si ça serait traduit du grec directement, ça, mais c'est l'expression « péter sa coche ». Quand on dit « péter sa coche », c'est exactement ce que ça veut dire ici, l'animosité. Quelque chose de ponctuel qui est soudain, ça arrive très régulièrement. Là, j'ai l'idée que j'avais, c'est qu'il y a plusieurs partisans de hockey ici, là, mais ça arrive souvent à ça au hockey. Dès qu'il y a un arrêt de jeu ou quelque chose, il y a comme ça devant le filet, tranquillement pas vite, ça commence à se rassembler, ça se tapoche un peu, c'est de l'animosité. Fait que ça arrive très souvent. Puis c'est sûr que quelqu'un qui a de la colère en lui, va entretenir de la colère en lui, va être beaucoup plus susceptible à péter sa coche de temps en temps que quelqu'un qui marche paisible avec Dieu. Fait que si quelqu'un cherche les choses d'en haut, est paisible, marche avec Dieu, bien, il n'y aura pas ce sentiment de colère-là, donc il va être beaucoup moins prompt à péter sa coche finalement. Là. Donc c'est ça ce qu'elle veut dire ici, animosité. Après ça, donc, si on a de la colère, l'animosité, ça découle, entre autres, sur la méchanceté. Bien, c'est tout ce qui est faire des actions pour faire souffrir quelqu'un, faire du mal aux autres. La méchanceté, c'est un mot qu'on connaît malheureusement bien. Puis souvent, comme je disais, ça va découler de la colère, de l'animosité. Là. C'est sûr que c'est de la colère, à un moment donné, l'action qui va découler de ça, ça va être des actions méchantes envers quelqu'un. La même chose, en fait, il y a trois expressions que je vais prendre ensemble, là, c'est l'utilisation de la parole, c'est calomnie, paroles déshonnêtes ou des paroles équivoques. En fait, c'est toute forme de mauvaises paroles qui sont dans le but de dénigrer quelqu'un, blesser quelqu'un par les paroles, dénigrer, nuire à leur réputation, etc. Là. Donc, toutes sortes de choses, on peut vraiment blesser par la bouche. Je lis un autre verset dans Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, on peut faire beaucoup de mal, mais faire beaucoup de bien avec nos bouches. Donc, il faut utiliser notre bouche pour faire le bien plutôt que l'inverse. Pas toujours simple non plus. Mais encore une fois, tous ces péchés-là vont nous montrer ce qu'il y a dans le cœur. Si ce qui est mauvais dans notre cœur, si on a des choses mauvaises, la colère, animosité, impureté, etc., bien, ça va se traduire en mauvaise parole vers quelqu'un ou en mauvaise action. Donc, l'important, c'est ce qu'on a en dedans. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. Donc, il faut chercher les choses d'en haut pour faire le ménage dans nos cœurs, finalement. Donc, si je résume, le comment rechercher et s'attacher aux choses d'en haut, bien, c'est abandonner, renoncer aux péchés qui nous caractérisaient autrefois, qui ne doivent plus faire partie de notre vie maintenant. Je lis un commentaire aussi que j'avais noté. Le péché est comme un monarque détrôné qui ne règne plus et qui n'a plus la capacité de condamner, mais qui s'efforce d'affaiblir et de détruire tous ses anciens sujets. Donc, je trouvais ça intéressant. Parce que le péché, on n'est plus sous l'emprise du péché, mais il est toujours là, puis il picasse, puis il revient dès qu'il peut, finalement. Donc, il faut se méfier de ça. Donc, le péché est comme un monarque détrôné qui ne règne plus et qui n'a plus la capacité de condamner, mais qui s'efforce d'affaiblir et de détruire tous ses anciens sujets. Donc, il régnait dans nos vies. Là, il était vaincu. On personnifie le péché ici, là, mais que ce soit le monde, le péché, Satan, etc. Vaincu, mais encore actif, puis plus de mal possible en attendant d'être vraiment, d'avoir vraiment la défaite complète, si on veut. Là. Puis, comme je disais aussi, ça c'est vraiment important, tous les péchés que Paul a mentionnés ici, ça découle d'un cœur mauvais. Donc, je reviens encore à ça. Puis, je vais lire quelques versets dans Marc. Il y a ces trois versets, peut-être ça vaut la peine d'y tourner cette fois-ci. Là. Pas que les autres, ça ne valait pas la peine, mais des fois, c'est juste une question d'être un peu plus rapide. Dans Marc 7, c'est le Seigneur Jésus qui résume en quelques mots très, très bien ce que je voulais dire. Donc, Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. En fait, vous allez voir, c'est à peu près la même liste là, que le Seigneur Jésus disait. Donc, on s'est dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités ou convoitises, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, c'est comme je disais, il faut chercher les choses d'en haut, puiser dans notre trésor qui est le Seigneur Jésus pour lutter contre ces mauvaises choses-là, parce que c'est ça, c'est du dedans. Il faut régler notre cœur. C'est ce qui est dans le cœur, c'est ce qui va sortir. C'est ce qui est mauvais en dedans, c'est des mauvaises choses, des mauvais fruits qui vont sortir. Donc, le plus important, c'est pas juste regarder nos actions, mais ce qu'il y a dans le cœur. Si on entretient la colère, l'animosité, l'impureté, bien, ça va se traduire forcément par des mauvaises choses, des mauvais fruits. Donc, cherchons dans la parole de Dieu, cherchons notre connaissance dans le Seigneur, c'est lui qui a les directions pour nos vies. Je vais faire juste un petit résumé avant d'arriver à quelques questions personnelles. Donc, Paul, très clairement, le thème est quand même assez clair, il faut chercher les choses d'en haut, s'attacher aux choses d'en haut, ou s'affectionner dans certaines traductions. Une expression que j'ai lue ici, c'est « Nos pieds doivent être sur la terre, mais notre esprit doit être au ciel. » Quand je disais tantôt de marcher avec le regard ou avec la perspective céleste, un peu ça. Là. Nos pieds doivent être sur la terre, on n'a pas le choix, mais notre esprit doit être au ciel. Fait que déjà maintenant, on doit vivre un peu comme des citoyens du ciel, même si on n'est pas là encore. On s'en vient, mais on n'y est pas encore. Donc, cette perspective-là, ce regard-là du ciel doit nous caractériser. Puis je répète le pourquoi. Pourquoi chercher les choses d'en haut? Parce qu'on est ressuscité avec Christ qui est assis à la droite de Dieu. Première chose, pourquoi chercher en lui tout ce qu'on a besoin pour nos vies? Deuxième chose, pourquoi chercher les choses d'en haut? Parce qu'on est mort au péché et à notre ancienne vie et que notre nouvelle vie est cachée en Christ. Donc, on est sous sa protection, si on veut. Ça ne fait pas de sens pour les autres, mais ça en fait pour nous, assurément. On est caché en lui. Pourquoi chercher les choses d'en haut? Parce que lorsqu'il va paraître, on va paraître avec lui dans la gloire. Ça aussi, c'est une pensée fantastique qu'on doit avoir. Bientôt, peut-être aujourd'hui, on va paraître avec lui dans la gloire, avec un nouveau corps, etc. Donc, comment on cherche les choses d'en haut? En renonçant à notre ancienne vie de péché. Très facile à dire. Je suis conscient que ce n'est pas facile à faire à tous les jours. Mais pour y arriver, là, je fais le lien avec, comme je disais tantôt, notre trésor, c'est Christ, pour la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Donc, il faut piger en lui tout ce dont on a besoin. Parce que, comme je disais aussi, on a tout pour le salut en Christ, pas besoin d'ajouter rien, mais pour lutter contre les péchés qui sont marqués là, on n'a rien besoin de plus que le Seigneur, puis sa parole. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, on a tout ce qu'il faut en lui pour mettre en pratique, puis vivre notre vie comme on devrait. Pas simple, mais on a tout en lui, rien à ajouter. Les œuvres n'ont pas besoin de ça, l'égalisme, discipline, faire attention à ce qu'on mange ou pas, c'est pas nécessaire pour marcher avec le Seigneur, tout ça. Donc, je termine avec les leçons, ça va être trois questions. Trois questions que c'est pour réflexion personnelle, évidemment, là, cette semaine ou toujours, pour moi et pour vous. La première, est-ce que je cherche les choses d'en haut ou celles du monde? Très simple, en lien avec le sujet principal du message. Donc, est-ce que je cherche les choses d'en haut ou celles du monde? serait facile à répondre, à dire ouais, chose d'en haut, mais si on réfléchit un peu plus, peut-être que c'est moins évident toujours comme réponse. Question personnelle. La deuxième, est-ce que je cultive des sentiments de convoitise et ou de colère? Puis pourquoi il faut cibler ces éléments-là? C'est parce que, comme je disais tantôt, sont la base d'à peu près tous les péchés qui sont indiqués là. C'est la convoitise qui m'amène tous ces péchés qui sont marqués là, puis la colère ou animosité qui m'amène toutes les autres, la deuxième liste. Donc, est-ce que je cultive des sentiments de convoitise ou de colère? Pas évident. C'est des réponses personnelles. Si on réfléchit, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas 100%. Bon. Troisième question. Quels sont les péchés avec lesquels je lutte et que j'ai de la difficulté à renoncer? Donc, que ce soit dans le cœur ou en action. Quels sont les péchés avec lesquels je lutte et que j'ai de la difficulté à renoncer? C'est des questions assez personnelles, donc je vous invite, puis je m'invite aussi à y réfléchir cette semaine. Puis je rappelle, on a tout ce qu'il faut avec le Seigneur pour marcher avec lui. Lutter contre les péchés, ce n'est pas simple. On a tout ce qu'il faut en lui, mais persévérons. Si on a une conclusion à donner à ça, c'est persévérons, parce que bientôt, on va être complètement libérés de ces péchés-là. Là, c'est compliqué, mais bientôt, ça va être pour une manière qui est difficile à concevoir maintenant, ça va... On n'aura même plus à lutter contre le péché, puisqu'on va avoir un corps incorruptible. Ça fait spécial aujourd'hui de penser à ça, même plus de mauvaises pensées, mais ça s'en vient. Alors, persévérons et cherchons les choses d'en haut, parce qu'il est notre trésor. Seigneur Jésus, la parole de Dieu, c'est notre trésor, donc cherchons en lui. On a tout ce qu'il faut en lui. Je termine rapidement en faisant deux choses. Je répète les questions, pour qu'elles soient fraîches en nos têtes. Est-ce que je cherche les choses d'en haut ou celles du monde? Est-ce que je cultive des sentiments de convoitise ou de colère? Quels sont les péchés avec lesquels je lutte et que j'ai de la difficulté à renoncer? Et juste avant de prier, je le fais à l'occasion, quand il y a quand même pas mal de stock, je vais relire le texte. C'est 8 versets, fait que là, on l'a regardé ensemble, on a dit certaines choses, des questions de réflexion. Je lis le texte pour qu'on l'ait bien en mémoire. Après ça, je vais prier. On pourra vaquer à d'autres occupations. Donc, je relis. Colossiens 3, 1 à 8. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Je vais prier pour terminer. Père, merci de ce rappel qu'on a eu de rassembler ensemble, de se souvenir qu'on a tout avec ton Fils pour avoir été sauvé. Si quelqu'un ici n'est pas certain de son salut, Seigneur, on a tout en lui. On n'a rien à ajouter, pas d'œuvre, pas des péchés qui auraient été trop graves, qui ne seraient pas pardonnés. On a tout ce qu'il faut avec le Seigneur Jésus pour le salut et pour marcher avec lui. Et Seigneur, il faut marcher avec le Seigneur pour justement... tuer la convoitise, si je peux dire, la colère qu'on pourrait avoir en nous, qui sont assurément, Père, la source d'un paquet de péchés qu'on a, puis qui sont désagréables. Seigneur, on voudrait ne pas entretenir ces frustrations, ces colères, ces mauvais désirs, Seigneur. Alors, on te prie de bien vouloir nous donner encore de la mesure de grâce, Seigneur, pour nettoyer nos cœurs, puis avoir une bonne réflexion là-dessus, mais se souvenir en tout temps qu'on a tout avec toi, y compris pour lutter contre les péchés dans ce monde qui nous entoure, dont l'influence est toujours présente, Seigneur, et qu'on tombe si facilement, mais on a tout en toi. On te remercie de ces choses. Aide-nous à chercher les choses d'en haut, à chercher les choses dans notre trésor qui est ton Fils que tu nous as donné, et on te remercie pour cela. Seigneur, bénis chacun de nous, bénis l'Assemblée de Sainte-Marie. Seigneur, on est tous frères et sœurs, qu'on soit Sainte-Marie, Sainte-Foy ou ailleurs. Alors, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et bénis la journée, la semaine qui commence. On prie ces choses au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen.